sur tes épaules. Dans ce monde, la place des femmes est dans le silence. Pourquoi pour le même résultat, elles font le double de ce que je fais. Dans ce monde, la place des femmes.
Enfin, enfin, spectaculaire recommence. Mercredi 25 avril 2018, émission numéro 162, 14h07. Oh là là, quel retard. Oui, bien, ben tant pis, voilà, on essaiera de moins parler et de davantage faire parler Audrey Bonnet, qui est notre invitée, que nous aurions pu recevoir peut-être en février dernier pour actrice, et puis cela ne s'est pas fait, voilà. Et puis que nous aurions pu peut-être aussi recevoir, est-ce qu'on savait à quel point, Gérald, à quel point ce serait bien cette Jeanne d'Arc d'il y a 2 ans à l'Opéra Lyon? Non, nous ne savions pas encore. Enfin bref, Audrey Bonnet est ici aujourd'hui pour parler avec nous jusqu'à la fin d'émission de cette pièce magnifique, sidérante, époustouflante, stupéfiante, prodigieuse, Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, écrite en 1995, au mois de septembre, publiée un peu après sa mort et puis montée pour une première fois en 2001. Elle est montée actuellement par Clément Hervieux-Léger au Théâtre des Célestins. Ça commence à 19h30 tous les soirs. C'était la première hier, la deuxième est encore ce mercredi, et puis c'est encore jeudi, vendredi ainsi que samedi. Et c'est absolument génial. C'est long, mais c'est splendide. Commençons avec Alain Bashung, parce que c'est le choix de notre invitée Audrey, qui va parler jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Enfin non, elle va parler jusqu'à 15h comme tous les mercredis pour l'émission spectaculaire. Ensuite nous laissons la place au Blues des Canus. Christophe Alain au micro, Gérald est là, j'ai tout indiqué. Donc commençons tout de suite, vous nous écoutez sur radiocanus.org si c'est sur internet, ou bien le 102.2 de la bande FM à Lyon, et c'est très bien aussi.
C'est un grand terrain de nulle part. Avec de belles poignées d'argent. La lunette d'un microscope. Et tous ces petits êtres qui courent. Car chacun n'a que son destin. Petits ou grands. Comme durant les siècles égyptiens. Péniblement. Porter 1000 fois son poids sur lui. Sous la chaleur et dans le vent. Dans le soleil ou dans la nuit. Voyez-vous ces êtres vivants. Voyez-vous ces êtres vivants? Voyez-vous ces êtres vivants? Quelqu'un a inventé ce jeu. Terrible, cruel, captivant. Les maisons, les lacs, les continents. Comme un égo avec du vent. La faiblesse des tout-puissants. Comme un Lego avec du sang. La force décuplée des perdants. l'ego avec des dents. Comme un Lego avec des mains. Comme un Lego. Voyez-vous tous ces humains? Danser ensemble à se donner la main. S'embrasser dans le noir à cheveux blonds.
Et cela pourrait continuer. Je crois que ça pourrait encore continuer à peu près 5 minutes, Gérald. C'est ça ?
Ouais, non ? Oui.
À peu près. Bonjour, Gérald.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Audrey. Merci
bonjour
d'être venu. Grand merci.
Avec plaisir.
Très grand merci. Donc, Gérald, nous recevons Audrey Bonnet. Je le répète, oui, pour la pièce Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, qui est montée au Théâtre des Célestins, qui est donnée au Théâtre des Célestins par Clément Hervieux-Léger, avec toute une troupe de comédiens.
11 comédiens sur scène.
Dont Audrey pourra certainement parler. Et c'est donné, ça a commencé hier, le mardi 24 avril, c'est jusqu'à ce samedi 28. C'est à 19h30. Attention, 19h30, parce que c'est une pièce longue. Voilà, il faut le dire tout de suite, il ne faut pas se cacher.
Longue mais passionnante.
C'est tant mieux, parce que c'est absolument génial.
Avec entracte. Qui dure 4h15 à peu près.
Et on a hâte quand l'entracte commence. Moi j'ai hâte que ça reprenne. D'ailleurs, je pensais qu'en fait il n'y aurait plus d'entracte. Donc, Audrey, première partie d'émission, c'est le cahier des charges de l'émission. Vous devez, un impératif, vous présenter. Alors peut-être que ce qui va vous aider, c'est Gérald, tu as quelques éléments biographiques
à... Oui, éventuellement, mais.
Comme ça, Audrey, ayez confiance en vous, ça se passera bien. Regardez, il est déjà 14h13, mon Dieu,
ça passe
il ne reste plus que 47 minutes. Ça ira bien. Vas-y, donc Gérald, peut-être...
Alors, Audrey, vous êtes comédienne.
Oui.
Vous êtes jeune.
Merci.
Très. Actrice très, ou comédienne. Je crois que la distinction, d'ailleurs, vous...
Je transmets des choses. Alors, ça se définit. Ça n'arrête pas de se définir. Alors, oui, c'est le métier d'actrice ou de comédienne quand j'écris ça. Mais voilà.
Comment avez-vous trouvé cette vocation théâtrale? Un souvenir, un déclic dans l'enfance, c'est souvent le cas.
Un professeur, généralement c'est ça, ou un cousin, une cousine.
Ou du théâtre familial.
Oui, alors bon, à chaque fois cette question, bien sûr, elle est consciemment, il y a ce dont je peux me souvenir consciemment, et je cherche à chaque fois un peu plus loin, il y a des choses qui reviennent, mais je pense que c'est beaucoup plus de choses inconscientes qui... Alors, consciemment, c'est les moments où je suis passée à l'action. Donc, je pourrais parler de mon grand-père qui écrivait et qui prenait la parole en public lors d'événements familiaux.
Et il avait plaisir à le faire.
Il avait un grand plaisir à le faire, à écrire. Il a même voulu nous laisser, avant de partir, des enregistrements de sa voix sur des petites cassettes audio pour qu'on puisse les faire écouter. Voilà, à la suite de la famille qui arrivera plus tard.
Et vous êtes
transmission.
Vous étiez admirative dans ces moments-là? Vous en avez des souvenirs assez nets?
Ah oui, j'ai des souvenirs assez nets. Et mon père, après, a pris le relais aussi de ça, des compliments. Il disait, écrire un compliment et le dire à haute voix. Et un jour, il n'avait pas la voix. Il avait un petit souci au cœur et il n'avait pas le souffle. Il me dit, bon, tu m'as dit que tu voulais faire du théâtre. Il m'a dit. Donc lui, il l'avait entendu. J'étais pas sûre de l'avoir formulé. Donc c'est toi qui va lire ce que j'ai écrit. Voilà, je suis très touchée. Ça me fait battre le cœur très fort quand les gens prennent la parole pour dire quelque chose, pour s'exprimer, pour dire voilà, quelque chose d'eux, quelque chose de ce qui est en train de se passer dans le monde. Enfin voilà, les prises de parole.
Profondes,
à haute voix,
sincères.
Voilà, profondes, sincères, ou même... Celles qui peut-être sont pas, comment dire, c'est pas forcément des grandes idées ou des théories sur la vie, pas du tout. C'est le fait de prendre la parole, de dire à haute voix. Et d'ailleurs, moi, à chaque fois que je dois le faire, même, ça me met dans un état. Là, par exemple, d'être à la radio.
Ça se voit.
Pourtant, on est quatre dans le studio, mais c'est. Ouais, j'ai.
Donc vous avez le trac peut-être?
Oui, complètement, ouais, parce que c'est pas rien.
Là maintenant?
Mais oui, parce que.
Un léger tremblement.
Oui, parce que je trouve que c'est pas rien d'être. Comment dire, d'être centré dans ce... Enfin, c'est vraiment une question, comment dire, une question de comment on se situe dans le monde. C'est politique presque, comment on prend la parole et où est l'authenticité dans tout ça. Et qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on réalise. Parce que souvent, au moment où on formule quelque chose, on le réalise. Quand on exprime quelque chose pour la première fois ou... Et
la parole performative.
Oui.
Quand dire, c'est faire. Éventuellement, mais c'est rarement le cas. Ou alors on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait pas.
Ah, c'est Stuart Side, vous voulez que je vous donne un professeur. Mon premier professeur au conservatoire, c'était Stuart Side, et il disait, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et avec son accent de Brooklyn, c'était très beau, donc tous les matins on arrivait en cours en essayant de se tenir à ça.
C'est le premier spectacle. D'ailleurs, on pourrait presque commencer tout de suite un peu de comment appeler ça, de votre carrière. Le rôle de la princesse Malène, c'est Stuart Side qui le monte, ou je me trompe?
Non, c'est Yves Bonnen,
voilà,
qui monte la
c'est
princesse Malène.
Théâtre du Nord que
oui,
Stuart Side administrait à l'époque. À l'époque 2000. Bon, bref, non, dans les années 2000, mettons, voilà, comme ça, ça fait peut-être pas.
Oui, c'est ça. Après
si
le,
vieux,
voilà, le conservatoire. Ouais, bon, je suis sortie du conservatoire la promo 2000, et puis après. Il y a eu cette création qui était incroyable de la princesse Malène avec une équipe de 7 à 77 ans. C'était,
Votre premier rôle?
C'était.
Parce qu'en plus, c'est un premier rôle, là, la princesse Malène.
Vous oui, étiez... enfin, c'était le titre, mais il faut voir où on place le premier rôle, si c'est dans la quantité du texte ou autour de. Enfin, bon, voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais non, le premier texte que j'ai joué, c'était Salinger, monté par Jean-Christophe Saïs de Coltès, et à l'époque c'était au TGP à Saint-Denis.
Coltès, j'ai oublié cela tout à l'heure dans une énumération hors antenne quand Gérald et moi cherchions à nous ressouvenir de ces moments que vous nous avez accordé avec notamment donc voilà par exemple il y avait Jeanne d'Arc, Jeanne au bûcher de Honegger, mais moi je
et la solitude
à La Part-Dieu dans le centre commercial,
oh là là,
mise en scène assez étonnante de Roland Ozé.
De Roland Ozé, oui, avec Thierry Tianyang.
Dans le cadre des Célestins, et ils font des chouettes choses hein, aux Célestins. C'est il va falloir Gérald qu'on remette la main sur Marc Lesage ou Claude Astavisky quand la programmation va arriver. C'est il y a vraiment des trucs prodigieux qui se montent la semaine prochaine de l'allemand. Surtitré, certes, mais bon, Thomas Ostermeier, je crois,
oui,
pour du. Ben, Thomas également, Thomas Bernhardt. C'est très bien. Je vous coupe beaucoup, alors que c'est ce que je ne voulais pas
faire. Non, mais c'est bien parce que.
Revenons à votre parcours, on va dire. Il y a des gens qui ont horreur du mot carrière. Alors, je vais hésiter, je l'ai dit quand même.
Non, mais tu sais,
votre parcours, est-ce qu'il y aurait
un point commun? J'ai dit carrière.
Ouais. Un point commun entre tous vos rôles. Enfin, il y a forcément un lien, à part vous-même. Entre l'importance fondamentale que vous accordez à la voix comme outil de transmission politique, même comme fondement de la vie, quoi, la voix. Et dans tous ces rôles, il y a un point commun, à part l'énergie
vous étiez
vous y avez mis dedans, quoi.
Salinger, par exemple.
Part de votre vie.
Ce premier rôle de Salinger.
Oui. C'est quand même le texte, c'est le à la lecture, qu'est-ce qui. Je sais pas, qu'est-ce qui percute, qu'est-ce qui vient se loger en moi dans la première lecture d'un texte, et après quel chemin ça fait jusqu'à ce que, enfin voilà, comment ça me travaille en fait, comment les choses me travaillent, et pour effectivement pour être dites, pour que je fasse le chemin pour les dire, et je sais pas si je pourrais tout dire, donc c'est sûrement des intuitions, des rendez-vous qu'on se donne avec soi d'abord pour lire un auteur, et après c'est aussi une équipe et le metteur en scène, la personne avec qui on va le faire, parce que c'est quand même
c'est
la première chose de la confiance la confiance accordée d'emblée sur voilà, il y a des bonnes et des mauvaises rencontres, et voilà, là je n'ai que des. Depuis un certain temps, je choisis, c'est que des belles rencontres et que des rencontres évidentes, entières, voilà, sans aucun compromis. Mais donc voilà, ça part du texte et du rêve commun.
Mmh. Du collectif aussi.
Oui.
D'ailleurs, il y a beaucoup de comédiens de ce spectacle viennent de la même compagnie ou travaillent régulièrement ensemble.
Oui, la compagnie des Petits Champs, qui a été créée par Clément Hervieux-Léger et Daniel San Pedro, avec Martin Rock comme administrateur. Et donc, oui, il y a un petit noyau.
Il y en a 5 ou 6, je crois, non?
Dans le noyau.
Sur les 11.
Ouais, les chiffres, je ne pourrais pas trop vous dire. Mais, et puis, il y a des nouveaux qui sont arrivés, tout jeunes, sortis du
Gérald, là, tu es déjà sur le pays lointain. Moi, je sautais, par exemple, pour terminer éventuellement ce premier moment, c'est vous lancer sur actrice.
Oui.
Parce que Pascal Rambert, c'est une rencontre, c'est ça? Et c'est une belle rencontre.
Ah oui, Pascal Rambert, c'est un coup de foudre. voilà, d'une rencontre, une fulgurance, je sais pas comment dire, un alter ego, enfin voilà, quelqu'un où on n'a pas besoin de s'expliquer grand chose pour s'accompagner et puis pour créer ensemble, ouais.
Donc il a écrit ce texte, actrice. Oui. Et il le met en scène. Et
voilà.
Et c'est en tournée encore ou vous avez.
On va finir bientôt. Il nous reste des dates à Lisbonne cet été en juillet.
Ah, c'est formidable.
Oui. Il avait écrit pour. Il avait écrit cette pièce pour la troupe du théâtre d'art de Moscou pour des acteurs russes. Et finalement, ça s'est pas monté à Moscou. Et donc, il l'a monté avec nous. Et donc, moi, c'est la première fois que je joue un texte de lui qui n'avait pas été écrit pour moi.
Ah, parce
qu'il écrit pour les acteurs. C'est même le prénom des acteurs russes qu'on porte.
D'accord.
Ouais. Ah, d'accord. Donc vous, c'était une Xenia, c'est ça qui était.
C'était une Xenia, oui.
Xenia. Et y a-t-il d'autres projets à venir avec Pascal Rambert, par exemple? Ou alors, non, Gérald, là, je suis déjà dans la fin d'émission sur peut-être les prochains projets à venir.
Il y a une chronologie.
Gérald, je suis absolument. Je suis effondré. Ça ne marche pas. Nous n'allons pas pouvoir, je suppose. Je crois, je le crains.
C'est pas grave. On a des ressources.
On a des ressources. Alors, vas-y, peut-être, tends-moi une ressource que nous puissions.
Ah bah alors, après, comme un Lego qui a été choisi dans ce fameux Bleu Pétrole, hein, l'album de Bachung, le dernier, je crois, avant qu'il meure, qui est magnifique, de tristesse, de beauté, de profondeur, de tout ce qu'on veut. Il y a des points communs énormes avec La Garce. On a découvert en l'écoutant, en le réécoutant.
Et nous allons pouvoir en parler.
Voilà, et on peut écouter Je suis une ville, pour enchaîner, puis après on commence,
Dominique,
on attaque le spectacle.
Comme si, une pause musicale.
Une petite pause rapide alors.
Que Audrey Bonnet, après, boive un verre d'eau, se ressaisisse, et puis elle ne fera que parler. Si, on va réussir cette gageure, ne faire parler que notre invité et nous pas trop. Alors là, je cherche à meubler parce que Gérald, me tends-tu donc cet enregistrement?
J'ai fait une bêtise.
Oh, ciel.
J'ai pas pris le bon Dominicain, je les ai tous. Et c'est pas Je suis une ville que j'ai pris, je suis désolé.
Ah là là,
alors on va écouter un truc qui sera encore mieux dans l'ambiance puisque ça sera.
Je le mettrai quand même sur le blog.
Un texte. Des images fantômes.
Herbie Guibert, c'est ça, sur une musique de Maurice Ravel.
Pierre Ricourt, et ça tombe bien puisqu'on n'a plus beaucoup de temps.
Mais si, il nous
reste. Mais j'invite tous les auditeurs et auditrices à écouter Je suis une ville.
Oui, mais je te dis, je le mettrai sur le blog, c'est pas un problème, comme ça on pourra tout de même.
Et c'est la dernière de l'album Fiction, la 12 de Jane Birkin.
Alors, oui. Oh, attends, il y a un titre caché, hein. J'aurais pu diffuser un autre titre. Donc, Dominique, non, pas Dominica, c'est Herbie Guibert, c'est ça?
Voilà, qui a des points communs avec Jean-Luc Lagarce. Et dont parle Monsieur Hervieux, d'ailleurs, dans son dossier de presse.
Dans sa note d'intention, je crois.
Voilà.
Ta photo sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, sans corps, qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit. C'est la main de l'oubli. Ta photo est tellement là, depuis si longtemps, que j'oublie toujours que tu es resté là. Image fantôme vole. Toujours plus étrangement, pour caresser mes pieds ou faire un peigne à mes cheveux. Ta photo sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet. Son corps qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit. C'est la main de l'oubli.
Ça se termine de manière un peu abrupte. Donc, Audrey Bonnet. Moi, pourtant, moi aussi, les mots devraient me manquer parce que vraiment, après, c'est toujours le problème de ne pas verser dans trop de flatteries, de flagornerie. Mais je suis enchanté de que vous soyez présent ici. Pour moi, j'en suis absolument vraiment ravi et c'est très bien. Vous, ça vous bloque et moi, au contraire, ça monte très volubile. Alors, je vais m'arrêter pour dire seulement que vous êtes sur scène et il faut, auditeur, il faut aller voir cette pièce, quoi, parce qu'il reste des places et parce qu'il y a une promotion web sur le site des Célestins. La deuxième place achetée est remise ou il y a une place offerte sur, enfin bref, trois places, enfin bref, il faut y aller parce que c'est long et c'est bien les spectacles qui sont durs et qui durent comme ça, plus d'une heure ou d'une heure et demie ou plus de deux heures, qui ne sont pas des films de Marvel, voilà, ça peut se produire des 1, 2,
c'est du temps, ouais,
il dure 2 heures et demie, là c'est bien, il dure 4 heures, ça dure même plus de 4 heures, il y a un entracte et les comédiens sur scène, dont vous, Audrey Bonnet,
qui incarnait Suzanne, la sœur,
ils sont géniaux, ils
du
sont géniaux.
Personnage principal qu'on va appeler Louis,
le pays lointain. Mardi 24 avril, samedi 28, 19h30, Théâtre des Célestins, la salle principale, non pas l'une des autres qui... je crois qu'il y avait eu des petits problèmes avec... Enfin bref, voilà. Nous arrêtons. Audrey, je vous en prie, vous êtes septembre 1995, mais voilà, moi ça me rend volubile, je suis vraiment très content, très heureux de recevoir Audrey Bonnet. Je coupe mon micro, je vous laisse parler de Suzanne, de Jean-Luc Lagarce, de Clément Hervieux-Léger, du TNS, de ce que vous souhaitez.
Ben oui, moi je peux vous parler... je peux dire aux auditeurs de venir, c'est sûr, parce que... C'est des rendez-vous qui se donneraient à eux-mêmes pour voilà, c'est très intime comme texte, c'est très comment dire, ce qui jaillit dans le langage chez chacun, c'est des silences, quoi, c'est des choses tues tellement longtemps que je pense aller au théâtre pour être impacté par du jaillissement, je pense que ça fait grandir quelque chose en soi. Ça, moi, je suis persuadée que le théâtre accompagne la vie et que la vie accompagne le théâtre et qu'il y a un dialogue très fort entre quand on passe les portes et que ça continue très loin et que se retrouver dans une salle à plusieurs à écouter un texte comme ça et avoir des êtres le transmettre avec ce qu'ils sont, c'est tellement la vie, c'est tellement qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on le reçoive ou pas, que ça dérange, qu'on s'y endorme, peu importe, ce temps-là partagé avec chacun le vit comme il a envie de le vivre, mais avec les mots de Lagarce, c'est très fort sur le théâtre, parce que c'est ça triche pas avec ça, avec cet instant-là. Il le convoque. Il convoque l'instant et le temps et la mémoire de chacun et le présent, quoi, et ce qui est entre les gens, quoi. Et donc une assistance qui assiste à quelque chose, voilà, de tellement intime, de ce pays lointain qui est en soi, en chacun. On a tous notre pays lointain. Voilà, venez.
On n'a pas précisé un peu le contexte, donc c'est un voyage à la fois intérieur, avec des fantômes, une histoire familiale très chargée, comme beaucoup de familles familiales, d'histoires familiales, donc c'est plus ou moins autobiographique.
Oui, c'est ça, c'est l'histoire de... Oui, c'est plus ou moins autobiographique. Et Jean-Luc Lagarce écrivait aussi pour les acteurs avec lesquels il travaillait, donc ça aussi, c'est... Il y a une mise en abîme dans son texte avec ça. C'est très jouissif à faire. Et donc c'est l'histoire de Louis, oui, qui revient dans sa famille, qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Et donc il est malade, il a le sida, et il vient leur dire qu'il va mourir. Et bon, je ne vous raconterai pas.
C'est un peu irracontable.
Le suspense, c'est juste le suspense de la vie. C'est le suspense du désir de... C'est drôle parce que je suis allée voir le film Mektoub My Love de Kechiche. Et on me retrouvait dans un cinéma pendant 3 heures comme ça, enfin j'ai fait des liens avec ce temps long sur comment circule le désir et comment les êtres se mettent à parler, se mettent à faire des aveux, à questionner les choses, à Et en fait, le suspense, il est là. Enfin,
quel que soit le suspense de la cinéma vie, et théâtre, c'est pareil. Quand
oui.
c'est réussi,
enfin, ouais.
Mais c'est non, communiquer cette énergie-là, ouais, cette tension et ce suspense qui est le propre du théâtre de la vie du cinéma.
Oui, et Kechiche, oui, il a ça très fort. Et donc, je pensais à Notre Pays Lointain dans la salle aussi. Je me disais, mais c'est ça, en fait, qu'ils ont réussi à faire tous les deux, c'est que la vie est un... Et c'est le suspense de la vie. Peu importe l'énigme, le nœud, c'est juste là, ce suspense-là de... qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui va... vers quoi on va se mettre en chemin, qu'est-ce qu'on va déclencher, qu'est-ce qu'on va provoquer, qu'est-ce qu'on va...
Remuer,
ouais.
On remue beaucoup quand on parle de famille, des souvenirs plus ou moins joyeux...
Et oui, épanouissant. Donc là, ça va être une...
On sent la frustration, et puis tout le rapport à la mort qui s'installe là-dedans, les aveux, les non-dits, on parle de crimes d'abandon, enfin, toutes les tensions familiales.
Ah oui, oui,
dans ce spectacle, il y a tout, quoi. On passe par tout le registre des sentiments. C'est un mélodrame, finalement, comment on pourrait qualifier ça.
Oh là là, même j'ai pas. Du mal à mettre des étiquettes,
ouais, c'est ça.
Des choses dans des cases. Ouais,
on pense à d'autres choses.
Je laisse faire chacun ça.
Ouais, c'est très compliqué. Et puis chacun projette ce qu'il oui. veut en fonction de sa propre histoire aussi.
Et alors, est-ce qu'on peut commenter peut-être la petite phrase de Claude Mauriac, extraite de l'œuvre Le Temps Immobile, qui est mise en exergue, qui est mise en épigraphe au tout début, forcément, qui précède le texte. « Reste ce sentiment de n'être rien dans un monde où rien ne subsiste, si ce n'est l'amour des vivants et l'amour des morts. » Elle est rude cette phrase, quoi. Avant même de lire le texte, moi j'ai commencé comme ça, très bien, ça va être... Et ensuite la distribution des personnages, peut-être qu'on peut orienter Audrey sur... J'ai lu le texte avant et moi j'ai trouvé ça très étrange, le nom des personnages, l'amant mort déjà, le père mort déjà, il y a également le guerrier, un guerrier, tous les guerriers, il y a aussi un garçon, tous les garçons, longue date, vous ça va, Suzanne, c'est peut-être plus... pourriez-vous un peu évoquer cette... Le terme lagarcien même, c'est la famille réelle, je crois, c'est ça.
La famille choisie.
La famille imposée, je crois que c'est le terme qu'emploie...
C'est le terme qu'emploie à longue date. Et il s'en excuse. oui, c'est la
donc
famille...
Vous êtes dans cette famille imposée.
Oui, moi je l'ai rebaptisé la famille des perdus de vue. C'est ce que Louis n'a pas vu depuis longtemps. Imposée, oui, comme une figure en patinage artistique ou celle-ci. Elle est là, on doit la faire, on doit la vivre, on doit la...
Qu'on le veuille ou non.
Qu'on le veuille ou non, elle est là, cette famille. Et ouais, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on choisit de... Comment on se rend libre de quelque chose d'imposé? Et la famille choisit. Mais finalement, c'est des termes qui peuvent s'inverser, enfin... Tout d'un coup, on voit au fur et à mesure des 4 heures que la famille choisie devient, dans le comportement, comme la famille imposée. Enfin, il y a une chose qui se... Les sentiments entre chaque voilà, vont vers... c'est une autre famille qui se recompose, donc ça fonctionne, ça se met à fonctionner, cette micro... je ne sais pas comment dire, cette micro-société, oui, ce petit... Ce groupe se met à avoir son propre fonctionnement aussi. Et donc, en fait, peu importe, à la règle, que ce soit la famille imposée ou la famille choisie, tout finit par se confondre et tout finit par s'accompagner. Et par, d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est que dans le pays lointain, il amène donc les amis, la famille choisie, alors que dans juste la fin du monde, il n'y avait que la famille, frère et sœur et la mère et la belle-sœur. Et dans l'écriture, il va, voilà, il a grandi comme un chemin pour continuer à dire, à se dire, à se raconter lui. Il fait les ponts, enfin les liens se. Bah, je me perds dans ce que je vous dis, mais tout est relié. C'est un arbre
généalogique.
Ouais, un arbre généalogique.
Et puis l'œuvre elle-même, qui est écrite sur plusieurs années, qui change beaucoup de forme, qui est son œuvre dernière posthume d'urgence avant qu'il meure.
Oui.
Il y a tout ça là-dedans, on le sent. Et puis une réflexion sur le théâtre, puisqu'il y a tout ce métalangage justement où le théâtre se fait devant nous. C'est le théâtre qui parle du théâtre aussi, la mise en abîme du théâtre lui-même.
Votre première intervention, je crois, vous dites je vais jouer les infirmières, c'est ça, ou je ferai
les actrices
infirmières.
Jouant les infirmières.
C'est ça. Avec une mention spéciale pour celle qui...
Et puis oui, celle qu'elle veut jouer absolument, c'est celle qui se tire une balle dans la tête, oui, avec la carabine à deux coups de son père.
Et une carabine qu'a gardé Suzanne.
Qu'a gardé Suzanne, elle a gardé la carabine de son père avec laquelle certainement lui s'est suicidé. Elle a gardé cet objet, elle le dira entre parenthèses, c'est écrit entre parenthèses comme ça. Mais oui, c'est une déflagration cette arrivée de Louis dans la... Dans la famille, il arrive comme un révélateur, quoi, comme en photo, il révèle, ça, il va tout révéler. Mm-hmm. On passe par tous les bancs.
D'ailleurs, pour ce qui est de la fin, Gérald, tu lisais dans ce cheminement que fait le comédien. Bon, on peut
évoquer la référence. On va pas raconter la fin, c'est une image symbolique.
Évoque le film. Pour ceux qui l'ont
vu. Dans le film, je sais pas. Non. Après, je sais pas ce que veut dire. C'est la dénudation avant la mort, peut-être, le fait que. Il y a une dénudation dans je ne vais pas dire quand, en ce moment, m'a fait penser à
un film
à la fin du théorème de Pasolini. Alors, je ne sais pas si c'est une citation, mais il y a des petits points communs sans doute entre Lagarce, Pasolini, peut-être Fassbinder. Il y a des univers peut-être communs dans les rapports humains, les tensions, la manière de montrer la vie, la mort, les fantômes, les relations familiales.
Et oui.
Il y a peut-être des citations.
Oh, bon. Sûrement. Alors après, c'est toujours... C'est toujours complexe de savoir qu'on cite consciemment
et inconsciemment et
les auteurs, de quoi ils sont constitués, c'est sûr, ouais, toutes les strates en eux. C'est Pascal Rambert qui dit ça d'une manière très très belle. Il dit que si on ouvrait le corps d'un acteur, d'un auteur, d'un humain, si on ouvrait le corps comme ça, on verrait les couches comme des... les pierres.
Les strates.
On verrait les mots. Comme ça, qui se sont mis, et les textes qu'on a portés en soi, et ce qu'on a reçu, qui s'est logé là, et comment les choses se sont. Et si on ouvrait, on verrait ça. Je trouve ça très, très beau. Et du coup, ouais, il y a forcément des situations. Tout circule. Tout est. On ne sait plus à qui on prend, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qui. On ne sait plus où c'est, quel mélange ça fait.
Oh. Consciemment et inconsciemment.
Ouais.
Moi, je pensais quand même, il faut vous poser cette question, Audrey, c'est comment peut-il y avoir deux Audrey Bonnet, quoi. L'Audrey que nous avons, Gérald et moi, en face de nous à 14h37, nous avons un échange qui est très agréable, et puis ensuite l'Audrey sur scène, et dans Jeanne au bûcher...
Suzanne.
Mais vous étiez terrorisante, hein. Moi, c'est ce que je vous ai dit tantôt, là, tout à l'heure. J'étais ravi que vous en preniez davantage au plancher de l'opéra. Vous retiriez ces strates, pour le coup. C'est presque comme une sorte d'analyse textuelle. Enfin, je sais pas, vous retiriez ces. Auparavant, vous aviez balancé tout un paquet de chaises et tables. Vous aviez été extrêmement violente. Comment peut-il y avoir cette violence et cette énergie, là, Suzanne? Vous arpentez, vous devez être crevée après les représentation du pays lointain, parce que vous, il me semble que vous êtes celle qui courait le plus, quoi. Vous changez, vous revenez, vous montez sur la voiture, vous descendez, vous claquez la portière, vous êtes vraiment une énergie folle, et là c'est, vous êtes toutes dans une réserve et une retenue, c'est très très bien, mais c'est quoi le truc qui vous met en marche, quoi? C'est le texte d'un coup, quand vous êtes sur scène, ça vous parle? Clément Hervé-Léger vous donne quelques indications, Pascal Rambert aussi, et puis d'autres, et Stuart Side et Yves Bonnen, et clac, il y a un truc qui se produit.
Mais je pense que les êtres humains sont constitués de choses qui déclenchent des énergies qu'on ne se connaît pas, qu'on ne soupçonne pas avoir. C'est-à-dire que se mettre en chemin pour quelque chose, c'est athlétique, c'est partir à la recherche et à la rencontre d'une chose très très intime qu'on n'a pas au quotidien ou dans la vie, enfin qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas forcément déplier. Et c'est souvent dans les... C'est drôle parce que c'est souvent quand... Enfin, moi j'adore les sportifs comme ça qui jouent toujours, qui sont toujours avec les limites physiques de leur corps et de leur esprit, sûrement parce que ça va avec le mental. Ou enfin là je vous parle des sportifs, mais c'est une chance, ou des gens qui par exemple, voilà, qui vivent dans la rue et qui ont, ouais, et parce que c'est une chose qui me que j'explique voilà parfois quand je suis avec des enfants et qu'il y a une chose violente comme ça qui se passe dans la rue par exemple, et donc je tente de formuler de quoi il s'agit. Et quand on est comme ça dans des contextes, le corps humain, l'esprit humain, le cœur humain, il déploie quelque chose, il déploie une énergie, et en même temps, il mène un certain combat contre des idées reçues, contre des regards, un comportement, qu'est-ce qui se passe dans l'air quand on émet quelque chose et où on peut sentir, on peut percevoir, et c'est pas mystique du tout, hein, c'est on peut percevoir que voilà, il y en a pour qui c'est compliqué à recevoir, d'autres qui vont le recevoir, d'autres comment on s'accompagne les uns les autres, comment de quoi il s'agit. En fait, sur le théâtre, c'est une chose brute comme ça, comme on peut avoir quand on est au bord d'un précipice, au bord de
sur l'arête,
voilà, on joue avec des limites, avec une certaine limite, et déjà la limite on franchit quelque chose avec le spectateur en face, même le spectateur qui vient se situer là dans une salle de théâtre, il a décidé de franchir, de faire le chemin vers... Parce qu'on met toujours les choses dans un sens, mais le chemin dans l'autre sens, il est peut-être moins perceptible parce qu'on en parle moins, alors on développe moins tout ce qui, de quoi il s'agit. Mais un spectateur dans une salle, il déploie autant d'énergie, sauf que... à l'intérieur de lui, s'il s'endort, voilà, hein, même s'il s'endort, voilà, et qu'il rêve ou qu'il ronfle, hein, sa question n'est pas là, n'est pas d'être attentif et dressé sur son siège. Mais tout ça circule. Et donc je pense que il s'agit de ça quand on est sur un plateau, quand on est, comme on dit, je sais pas si c'est le terme exact encore, mais en représentation, qu'on s'expose, qu'on est exposé ou surexposé, parce que la lumière, elle vient se flanquer là. Et c'est drôle, une fois j'avais assisté à un concert de Anthony and the Johnson que j'aurais pu vous donner pour la musique aujourd'hui.
On mettra sur la playlist.
Parce que c'est une voix qui est dingue.
Ah oui.
Et j'avais vu en concert à la Philharmonie à Paris, et à la Cité de la Musique, et tout d'un coup il y avait un projecteur sur lui, et en fait il reprend, s'il n'est pas à l'endroit, pour lui, à l'endroit juste, centré, il reprend. Et il a demandé au régisseur d'éloigner la lumière. Le régisseur n'a pas tout de suite compris le signe, donc il s'est décalé. Il a pris son micro et il est allé se mettre dans le noir, pour sûrement pouvoir se déformer, je ne sais pas, physiquement, pour que le son sorte.
En situation de...
Voilà, pouvoir...
De performer, quoi.
Voilà, pouvoir énoncer ce son, pouvoir aller les mettre. Mmh. Et ça, je trouve, c'est au cœur de ce qu'on vit sur le plateau constamment, et même dans la vie. Mais dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué, parce que... il y a des filtres, il y a des choses, il y a des voiles à enlever, il y a des...
La socialité,
voilà,
le respect,
y a quelque chose,
la discrétion, toutes les inhibitions sociales, de la vie en commun, on va dire.
Voilà, tout ça, mais bon, c'est quand même ça.
C'est la même émotion.
C'est la même chose. Et le fait d'être dans une salle et d'être là surexposé, de devoir... C'est à cet endroit-là, c'est-à-dire que comment on ose se déformer là, tous ensemble, en commun, déformer... faire tout sauter pour avancer, pour que la pensée et notre... Et comment... j'arrive pas à le dire.
C'est une exploration des limites que vous cultivez à travers le théâtre, qui vous permet, comme on l'a vu hier soir, de passer du rire aux larmes, d'être d'une... Enfin, je sais pas si on peut dire ça, j'ai pas lu les théories des comédiens, d'un naturel époustouflant, on sait pas qui on a affaire, et puis des fous rires, c'est un vrai, c'est faux. Enfin, on hésite toujours, dans un flot
Et Clément
qui nous bouleverse par la parole et la présence d'un corps, quoi. Qui peut passer en plus de sentiments et d'émotions très antithétiques.
Pas qu'un corps,
assez rapidement.
Une voix aussi.
Oui, une voix, un corps, un texte. C'est un tout.
Dans Jeanne Aubuchet, cette voix m'avait effrayé. Vous l'avez eu hier, un peu. Une sorte de voix très gutturale que vous allez chercher. Enfin, non, c'est ce que je compterais absolument, vraiment très mal, mais il y a un truc que vous allez chercher ailleurs. Et c'est plus la voix très, très douce que vous avez. C'est quelque chose de beaucoup plus violent, et c'est. C'est très fort. Enfin, à recevoir, c'est... Moi, c'est bien simple, hein. C'est le spectacle où j'ai eu la plus incroyable, la plus magnifique concentration de toute ma vie. J'ai jamais été concentré de 19h30 jusqu'à la fin. Généralement, ma pensée vagabonde un peu. Là, non, c'est pas possible. On est pris. Et merci. Parce que
c'est bien. Enfin, c'est. Il le dit souvent dans le texte. Ce n'est pas bien. Il y a souvent des termes comme ça. Ce n'est pas bien.
Ce n'est pas bien.
Là, pour le coup, c'est bien.
C'est bien.
Et c'est important. Parce qu'il faut, il faut ressentir des choses comme ça. Enfin, parce que je crois que c'est peut-être ce que vous êtes en train de dire. Dans la vie, je ne sais pas si on formule ces choses-là ou si on peut les vivre. Vous parlez d'un combat intérieur. Là, au moins, voilà, il y a des mots qui sont mis, en plus des mots incroyables. Le texte de la gare, je ne sais pas si on pourrait encore en parler, mais c'est un texte qui est absolument... Moi, il me semble que je n'ai pas lu de Céline d'ailleurs, je crois, très peu. Eh bien, je crois que je ne vais pas lire du Céline. Ça ne peut pas être intéressant de lire du Céline après avoir lu du la gare. C'est absolument sidérant, quoi. C'est cette écriture, là, une forme de ponctuation, de reprise, des sujets qui sont forme elliptique, c'est ça. Vous recherchez ce mot pour les cartes postales qu'écrit méchamment, qu'écrit Louis en s'adressant davantage au facteur qu'à sa famille. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Au moins, je parle un peu parce que ça vous laisse un mot encore. Oui,
oui, Lagarce dans l'écriture, il est.
Comment est-ce qu'on joue le texte de Lagarce?
Comment est-ce qu'on joue les textes?
Le père mort déjà hier m'a dit il faut le à voix haute. Il faut le lire. Enfin, quand on le lit, il faut le lire à voix haute.
C'est vrai, ça, il y a quelque chose qui apparaît à voix haute, c'est sûr. Parce qu'il l'a écrit pour des acteurs aussi, pour que ce soit dit. Mais le chemin vers un texte, en ce qui me concerne, c'est toujours assez intuitif, comme pour retrouver effectivement le chemin de l'auteur. Comment retrouver le chemin de l'écriture, en fait, pour... Et en fait, moi j'ai une sensation avec Lagarce que le chemin de l'écriture, il déroule comme ça, et même l'écriture en train de se chercher fait partie de son écriture. Mmh. C'est-à-dire que voilà, le chemin de l'écriture est avoué.
Et l'écriture.
Il est avoué, oui. Il est,
la pièce a lieu aussi, les choses. Oui.
Oui. Et du coup, ça n'en finit plus à partir du moment où cette chose-là est donnée sur le papier. Mmh. Après, ça n'en finit plus ça se flanque partout, l'écriture en train de se faire.
Pour Antoine, c'est effrayant. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Et c'est écrit. Et c'est écrit. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit.
Mais oui.
Moi, je trouve ça génial. Enfin, du moins, c'est peut-être, je sais pas, tout à fait infime, anodin et sans.
Ah non, parce que c'est sans fin. C'est sans fin parce que c'est. Voilà, ça permet aussi à l'acteur, au spectateur d'être à cet endroit-là, d'écrire quelque chose à vue, de le déplier comme ça. Et peu importe les tentatives, comme vous disiez tout à l'heure, des fois c'est des crises de rire, des fois c'est des crises de larmes, des fois c'est rien, des fois c'est à plat.
Une présence de tous ces 11 comédiens et personnages surtout, parce que ils sont très riches, et même quand ils disent rien, ils ont tous une présence phénoménale dans leur regard, dans leurs gestes, dans leur moindre présence, déplacement, manipulation d'un objet insignifiant. Tout prend sens. Les déplacements sur le plateau, le décor est assez stable, très figé d'ailleurs, on pourrait même dire mort. C'est un décor un peu post-apocalyptique de banlieue, d'une sorte de pays. On ne sait pas quel pays.
Oui,
et il y a ces déplacements, ces passages, qui est fantôme, qui est vivant, où on est, quel moment, quel souvenir. Dans quelle tête, dans quel cerveau, tout se mélange, crée une confusion mentale et permet la catharsis peut-être.
Et oui, mais comme vous dites, même sur le plateau, selon où on pose nos yeux chaque soir et ce sur quoi on tombe, le regard d'un tel ou d'un tel, c'est jamais la même chose chaque soir. C'est assez bouleversant. Des fois, il y a une. Voilà, on joue avec ça, avec ce qui circule entre nous, et c'est très très fort. C'est très, très
beaucoup,
fort.
Oui, c'est rare de voir ça dans un spectacle de théâtre vivant, une telle énergie qui circule entre à la fois la salle et une écoute. Hier, c'est une écoute. Louis, l'acteur qui est Louis Corbery,
oui.
Qui a incarné Louis, on a parlé un peu après, il a dit qu'il avait rarement vu une telle écoute. Il a senti cette énergie, comme si tout le monde avait compris Lagarce, adorait Lagarce. Ce qui est loin d'être le cas, sans doute.
Mais... Il y avait des rires tout de même, hein. Il y a quand même
Il y a de l'humour et de l'ironie, de l'humour noir, heureusement. Parce que 4h15, il faut un petit peu de dose d'humour noir, même pas de cynisme, c'est pas cynique, donc c'est plus un peu de dérision, d'absurdité, de comme il y a dans le quotidien.
Oui, c'est ça, c'est des choses qu'on reconnaît, qui
nous font rire, parce que c'est des situations vécues, ou voilà.
Qui nous font rire, ou certains soirs, ça pourrait nous faire pleurer, enfin, peu importe, c'est-à-dire que ça fait quelque chose.
Il y a une langue du quotidien. Clément Hervieux parle dans la langue de Jean-Luc Lagarce, dans sa note d'intention, justement, d'un mélange de classicisme quasiment racinien, mélangé à un langage de tous les jours complètement banal. C'est ce mélange à la fois très écrit, et en l'écriture qui se dit elle-même... comme écriture, c'est tous ces ingrédients qui nous berce et qui nous emporte dans le flou, quoi.
Il faut donner un exemple. Je vais tenter de le faire très très mal, mais il y a un exemple là. Antoine, ce fameux Antoine, le frère qui un personnage très brut, voire brutal, le terme que tu utilisais. Et donc, en même temps, de la même manière, parce qu'il est en train de, il vient de dire à Catherine qui est sa femme, il vient de dire à Catherine qui parlait de ses enfants, laisse ça, tu les ennuies. Donc ensuite, il y a tout un échange entre longue date, Catherine, Louis. Non, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, Louis Corbery, c'est vrai qu'il est. C'est génial, voilà, je vais encore dire génial, ça fera quatre fois depuis le début de l'émission, quand il dit « Ça ne m'ennuie pas du tout, cela ne nous ennuie pas du tout, tout ça, mes filleuls, neveux, nièces, ma nièce, non, ce n'est pas ma filleule, non, pas ma filleule, pas comme ça qu'on dit filleule, c'est autre chose, ma nièce, pas du tout, pourquoi dit-il cela, ça m'intéresse ?» Et là, il regarde les autres, c'est ça qui est très bien dans une mise en scène, c'est que là, on l'a pas dans le texte, quand on lit, et on n'a pas, et d'ailleurs, il me semble que Clément a vu léger, enfin, c'est pas possible, il a travaillé avec, d'ailleurs, on peut tout à fait avoir ce soupçon-là, il a dû travailler avec les tomes de son journal intime. Moi, pareil, en sortant, j'ai croisé le comédien qui interprétait l'ami, l'amant mort déjà. Et il m'a dit, si vous appréciez un peu l'écriture de Lagarce, plongez-vous donc dans ces deux tomes de son journal intime. Et je pense que Clément Révélégé a dû faire ça parce qu'il y a une communication entre le texte et son incarnation ensuite sur scène qui. Enfin, c'est la mise en scène. Je crois qu'il y en a eu une autre, il me semble, c'est indiqué d'ailleurs dans ce livre. Il y a eu une mise en scène en 2001, me semble-t-il. Elle a été créée en 2001 au Fanal, scène nationale de Saint-Nazaire, dans une mise en scène de François Rancillac. Oui, ça devait être bien, mais il faut aller voir la mise en scène de Clément Révélégé au Célestin. Et donc, en même temps, de la même manière, Antoine qui parle, qu'est-ce que j'ai dit ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, qui devrait, à la vie. Je continue. Ce n'est pas ce que j'ai dit qui devrait t'empêcher de continuer. Je n'ai rien dit qui puisse te troubler. Elle est troublée. Le mot tout à fait. Elle est troublée. Catherine est comme ça, troublée. Je n'ai rien dit. Allez, continue. Il t'écoute, ça t'intéresse. Et puis continue encore. Le mot troublé, moi je voulais employer ce mot pour dire que vous me semblez moins troublé en cette fin d'émission, Audrey. c'est peut-être tant mieux. Encore une petite dizaine de minutes, un petit titre, Gérald, parce que non, Internet ne marche pas du tout, c'est dommage. Modern Love, il y avait également Depardieu qui chante Barbara, premier éditeur. Vous le savez, l'émission, si vous ne pouvez pas l'écouter en direct, et d'ailleurs peut-être que c'est le cas, vous êtes en train de l'écouter en réécoute sur le site, je vais mettre une playlist mais monumentale avec tout un tas de titres. Je mettrai Anthony and the Johnsons. Moi, je le connaissais avec ses collaborations avec Björk. Et Björk, il y a un truc là, cette petite fille islandaise qui est toute discrète et ensuite elle se met à crier, à chanter, à Bachelorette, voilà, ou plein de choses. Et Audrey Bonnet d'ailleurs, là il y a un B, enfin j'ai n'importe quoi. Oui Gérald, qu'est-ce que tu veux passer?
T'entendais qui, les Mr Hyde? Puisqu'on est dans les chansons joyeuses, on est dans les chansons joyeuses, on va continuer avec Gérard Manset. Après Comme un Lego de Bachung, on va passer Gérard Manset, Quand on perd un ami, la 2 de l'excellent album Le Langage Oublié.
Ah mais c'est
puisqu'on parlait de l'amant déjà mort.
Non, mort déjà, l'amant virgule mort déjà, un guerrier virgule tous les guerriers, un garçon virgule tous les garçons, le père virgule mort déjà, c'est effarant, enfin du moins de faire des d'écrire des si je ne retire pas le CD précédent, ça va
parce
pas
parce que aller. C'est quand même une pièce sur la perte, sur l'approche de la mort, sur
et qui concerne tout le monde, hein.
Les fantômes, nos fantômes,
les années SIDA, on peut oublier ça, enfin disons oui, il y a un aspect documentaire peut-être sur les années 90, mais non,
c'est il y a un aspect à la fois très daté, complètement universel comme toujours dans les œuvres d'art. Des bonnes.
Eh oui, mais on peut pas oublier le sida. Ça, c'est pas
possible. Non, bien sûr, excusez-moi. Mais on peut voir ce spectacle sans accorder une importance trop grande à ce prisme. Enfin, il y a d'autres choses.
Ce prisme évident.
Qui peut toucher chacun. Enfin, c'est.
Oui.
Gérard Manset, tu as dit Gérald. Hein, bon, Gérald Manset, et puis on essaie de terminer.
Quand on perd un ami, c'est peut-être qu'il dort dans un autre univers de gel et de bois mort, dans un autre décor, simplement affaibli. Quand on perd un ami, son âme se décolle comme un papier jauni papyrus d'école. C'est que l'on a grandi quand on perd un ami, comme dans un tamis, après que le cambiste ait déserté la salle. Déserter la salle. Dans le jour indolore et dans l'air inodore, repose sur le pourpre, entouré des siens. Et pas même un chien pour lécher sa paume, son bras recourbé, quand un ami s'en va.
Vous êtes bien sûr Radio Canus 102.2. Nous avons eu la chance de recevoir, car l'émission se termine dans quelques minutes, la grande, l'inénarrable, la merveilleuse, la performeuse exceptionnelle Audrey Bonnet.
Ah, c'est très bien, je souscris. Très bien. La stupéfiante.
Qui reviendra peut-être. Si elle a le courage de nous supporter, une fois de plus,
mais
pour un nouveau spectacle. Donc il venait pour le pays lointain, nous avons tous un pays lointain intérieur, et vous pouvez aller retrouver, rechercher vous-même ce pays lointain si vous allez au Célestin jusqu'au 28 avril à 19h30 pour un spectacle de 4h15, avec des promotions sur le site. Vous pourrez trouver ça, un spectacle long, immense, passionnant, exigeant, remuant, bouleversant, avec un entracte. 11 comédiens sur scène, tous qui ont un parcours exceptionnel, que des grands comédiens. Fascinant, qui on va pas faire de la collaboration. Vous avez peut-être vu certains au cinéma, à la télévision, dans des pièces merveilleuses. Et c'est un texte magnifique, le dernier texte de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Monsieur Hervieux. Nous avons aussi Hervieux Léger Clément. À la scénographie, Aurélia Mestre, lumière, Bertrand Couder, au son, Jean-Luc Christor, musique, Pascal Sangla, maquillage, coiffure et costumes. Les costumes sont très intéressants. La scénographie,
Il faut en parler. Un piano, ou différents instruments, enfin différentes choses. Il y a toute une bande sonore qui est assez élaborée. Et puis, alors, à l'entracte, c'est à fond années 80 avec Take On Me de AA, avec également Video Kill. Ah, mais ça, on aurait pu le diffuser. Je l'avais, Video Kill de Radio Star. Bon, on va terminer l'émission comme ça. Ouais, on va terminer l'émission.
C'est vrai?
Bon. Donc Gérald, oui, qu'est-ce qu'il y a aussi?
Bah, c'est tout. Régie son, Régie Lumière, Régie Générale. Je ne vais pas nommer tout le monde.
Le texte dont nous avons parlé.
Tous les comédiens peut-être.
La librairie de Célestin.
Allez, alors c'est avec Emeline Alix qui interprète Catherine, Louis Berthélémy, l'amant déjà mort, Audrey Bonnet, ici présente, Suzanne, Clémence Bouet, Hélène, Loïc Corbery de la Comédie Française, Louis, Vincent Dizès, l'ami longue date, François Nambeau, un garçon, tous les garçons, Guillaume Ravoir, Antoine, Daniel San Pedro, le guerrier, tous les guerriers, Nada Strancar, la mère, et Stanley Weber, le père, mort déjà.
Nada Strancar.
Deux fantômes et 9 comédiens vivants, non. 11 comédiens
Strancar,
bien vivants.
C'est un monument. c'est un monument. La voir sur scène, c'est. J'ai souvenir de Christian Scaretti qui disait qu'en répétition, il l'a vu mourir. Voilà, il l'a vu mourir sur scène, mort de 5 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, elle est revenue à la vie, puisqu'on peut la retrouver au Célestin. Mais enfin, il était absolument effondré, puis c'est une immense comédienne. Et donc, allez-y, quoi, elle dégage quelque chose avec une voix. Voilà, il y a une voix, quoi, et c'est très bien la radio, mais en fait plus trop, parce qu'il paraît que la vidéo a tué la radio. C'est le grand tube qui résonne à la boum de l'entracte, et je crois qu'à 14h59, si on veut laisser la place au blues des canuts, il est temps de la diffuser. Nada Strancar, oui, vous êtes d'accord?
Oui, venez voir Nada Strancar, elle va vous parler.
Ah oui.
Et venez voir aussi.
Ce spectacle parle à tout le monde. C'est ça qui est beau.
Je souhaitais faire quelques annonces, mais on n'a plus.
Non, et comme disait Patrice Chéreau, écoutez quand même pour finir, les êtres cités par Clément Hervier Léger, les êtres aimés sont eux aussi des fantômes, mes fantômes, vivants. Ils disparaissent, ils réapparaissent parfois. Ils me hantent et m'habitent. Je les convoque tous les jours. Alors, chères auditrices, auditeurs qui avez tous vos fantômes, comme chacun d'entre nous, précipitez-vous, retrouvez quelques-uns de vos fantômes,
venez avec
ou des
fantômes,
voisins, venez avec vos fantômes, il faut venir avec ces fantômes, assister à ce merveilleux.
Pour retrouver les annonces de Théâtre des Célestins et puis de d'autres structures, Piano à Lyon et je ne sais quoi, sur le blog, voilà, parce que là on ne va pas évoquer d'autres choses. Il est temps, est-ce que c'est bien là?
Oui, nous sommes ponctuels.
C'est le tout début de ce Video Stars. Video Killed the Radio Stars. Ça commence de manière très, très bizarre comme ça. Allez, Pascal est là, il trépigne. Blues et Canu, merci Audrey,
merci
tout le monde,
merci
de prendre Radio Canu et allez voir le pays lointain de la Garce. Ciao tout le monde.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.